au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers, reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Le 16 octobre 2019, le roi du Maroc a gracié Aja Raissouni, condamné à 1 an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. La journaliste, son fiancé et le médecin également gracié ont été libérés après l'annonce. Estimant avoir été victime d'un procès politique, Aja Raissouni a toujours dit avoir été traité pour une hémorragie interne, ce que son médecin a confirmé devant la justice. Un manifeste lancé par des femmes influentes signé par 10 000 personnes demande la suspension de l'application des lois liberticides punissant de prison le sexe hors mariage et l'avortement. Le texte en cours de débat au Parlement prévoit un léger assouplissement concernant les conditions de l'avortement en cas de viol, d'inceste et de malformation du fœtus. Un tribunal turc a condamné à la prison à vie un homme qui a tué son ex-épouse dans un café sous les yeux de leur fille de 10 ans. Feda Evaran a été reconnu coupable d'homicide volontaire sur Emin Bulut. Des témoins avaient publié ce meurtre sur les réseaux sociaux, ce qui avait provoqué de nombreuses manifestations contre les violences faites aux femmes. En Turquie, 354 femmes ont été tuées au cours des 9 premiers mois de 2019 et 440 pour l'année 2018. Le prix Nobel de littérature a été décerné à la Polonaise Olga Tokarczuk pour l'édition 2018, reportée d'un an après un scandale d'agression sexuelle. L'Académie suédoise a implosé après la publication en 2017 des témoignages de 18 femmes accusant de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol le français Jean-Claude Arnault. Mariée à une académicienne et disposant d'une forte influence sur le Nobel de littérature, il a été condamné à 2 ans et demi de prison pour viol. Après une cascade de démissions et mises en retrait, l'Académie avait dû reporter d'un an l'édition 2018. 15 femmes seulement ont reçu ce prix depuis sa création en 1901. Les femmes saoudiennes sont autorisées à intégrer les forces armées dorénavant, mais pourront seulement accéder au rang de soldats de première classe, caporal, sergent et sergent-chef, a précisé le ministère des Affaires étrangères. En 2018, elles ont été autorisées à intégrer des postes au sein des forces de sécurité. Depuis la chute des cours du pétrole, l'Arabie Saoudite tente d'améliorer son image à l'étranger pour attirer les investisseurs et les touristes.
Parole de femme.
Dans le nord-est du Nigeria, 112 écolières enlevées par les islamistes à Chibok il y a 5 ans et demi ne sont toujours pas retrouvées. Début octobre, les activistes du mouvement Bring Back Our Girls ont marqué 2000 jours de captivité des jeunes filles pour attirer à nouveau l'attention des autorités fédérales. Le point avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Ils étaient plus d'une centaine d'activistes et certains parents des écolières réunis à la place de l'Unité à Abuja pour réclamer une fois de plus la libération des 112 filles. Les combattants de Boko Haram avaient pris d'assaut l'école secondaire publique pour filles à Chibok dans l'état de Borno le 14 avril 2014. Plus de 200 filles sont enlevées, mais 57 des filles se sont échappées et ont retrouvé leur chemin à la maison. Le gouvernement fédéral a ensuite négocié avec les ravisseurs qui ont libéré 107 filles, laissant 112 autres en captivité il y a de cela plus de 2000 jours. Depuis, les écolières sont devenues le symbole des victimes de l'insurrection de Boko Haram qui ravage le nord-est du Nigeria. Pour marquer les 2000 jours de captivité, les activistes du groupe Bring Back Our Girls, créé pour lutter pour la libération des écolières, ont exposé plus de 112 paires de chaussures portant les noms des écolières disparues. Florence Ozo est membre du groupe.
Le travail du gouvernement est de protéger et de sécuriser ses citoyens lorsque des incidents pareils se produisent. Et le travail des citoyens est de rassurer que le gouvernement n'oublie pas son travail. Et c'est ce que nous faisons.
Les parents des 112 écolières du Chibok déplorent que le gouvernement fédéral n'ait pas réussi à libérer les filles enlevées il y a plus de 5 ans. Tunde Adebeju est venu exprimer sa préoccupation.
2000 jours, cela fait 5 années et 6 mois que les filles ont été enlevées. Cet enlèvement signifie qu'il y a eu de sérieuses défaillances. 112 filles, si ces filles étaient des filles d'un gouverneur par exemple ou d'un haut cadre du cabinet ministériel, toutes les agences de sécurité seraient mobilisées pour les retrouver. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce que leurs parents sont pauvres que vous n'allez rien faire.
That we will not care.
Certains parents des écolières portés disparus ne sont plus en vie. D'autres sont malades et certains sont traumatisés par l'absence de leurs enfants. Le président nigérian Muhammadu Buhari a toujours déclaré que le gouvernement restait mobilisé pour parvenir à leur libération. Mais les parents attendent encore de voir la promesse du gouvernement se réaliser. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le long des rives du lac Malawi, la pauvreté et les pénuries alimentaires sont des problèmes chroniques, dus notamment à la diminution des prises de poissons. Les femmes dans le besoin ont parfois recours aux rapports sexuels avec des pêcheurs pour avoir de quoi nourrir leur famille. Un reportage de Lamek Massina à Mangoshi, le récit est de Salwa Jafari.
Mangoshi est une petite ville nichée entre le lac Malawi et le lac Malombe. Dès les premières lueurs du jour, les femmes convergent vers la plage pour accueillir les pêcheurs. Le bruit court que beaucoup d'entre elles se prostituent en échange de quelques poissons. Cecilia Iman fait partie du comité de la plage du village.
La plupart des pêcheurs se rendent au lac avec pour but de trouver des femmes. Mais ces relations ne durent pas et elles ne font que poser des problèmes aux villageoises.
Le sexe pour le poisson, ou fish for sex, est un phénomène réel, commun dans de nombreux pays en développement. Les femmes commerçantes sont souvent contraintes à avoir des relations sexuelles avec les pêcheurs qui les approvisionnent.
Par exemple, j'ai 3 dollars ou 2000 kwachas dans la poche. Je dois me rendre au lac pour acheter du poisson. Et là, un pêcheur m'offre du poisson gratuitement. Compte tenu du fait que je n'ai pas mangé la nuit dernière, mon enfant non plus, j'accepte son offre.
Une offre empoisonnée que ces femmes démunies ont du mal à rejeter.
Si la prévalence de l'infection par le VIH augmente dans notre région, c'est en grande partie à cause des pêcheurs. Les femmes sont trop désespérées pour refuser le poisson. Les femmes tombent souvent enceintes. Les pêcheurs rejettent cette responsabilité, les laissant se débattre toutes seules pour prendre soin des bébés.
Bien que les relations sexuelles transactionnelles entre les femmes commerçantes et les pêcheurs du lac Malawi soient monnaie courante, la stigmatisation et la discrimination rendent difficile l'identification de ceux qui en sont à l'origine. Laïka Atibou est marchande de poissons.
Je fais de mon mieux pour travailler à la pièce afin d'amasser des fonds pour acheter du poisson. Parce que j'ai peur. Si je fais cela, je peux contracter le VIH. Et si je contracte le VIH, je ne pourrai plus nourrir mes enfants car je prends soin d'eux toute seule.
Les pêcheurs avec lesquels nous avons parlé nient toute implication.
Nous ne faisons pas ça si une femme n'a pas assez d'argent pour acheter du poisson. Nous ne lui demandons rien.
Je viens au lac pour nourrir ma famille. De telles tendances sont plus courantes chez les célibataires. Ce sont eux qui s'adonnent à cette pratique.
Cependant, diverses recherches montrent que le sexe pour le poisson au Malawi est plus répandu entre le mois de décembre et mars, car le pays est gravement touché par les pénuries alimentaires à cette époque. Pour enrayer le problème, les chefs de communauté ont mis en place des initiatives d'autonomisation économique pour s'assurer que les femmes disposent de leurs propres sources de revenus. Ali Mohamed est le représentant local du gouvernement.
Nous avons donné aux femmes le pouvoir de former des groupes afin qu'elles puissent commencer à s'octroyer des prêts entre elles pour créer des entreprises. En agissant de la sorte, nous nous assurons que les femmes sont indépendantes et ont assez de moyens pour se défendre et refuser les avances des hommes.
Les rapports indiquent que les pêcheurs offriraient d'avoir des relations sexuelles avec une femme en échange de 15 douzaines de poissons si aucun préservatif n'est utilisé. 3 douzaines dans le cas contraire.
Le 18 octobre 2019 a vu la première sortie de deux femmes dans l'espace lorsque les astronautes américaines Christina Koch et Jessica Meir sont sorties ensemble de la Station spatiale internationale pour effectuer une réparation pendant plus de 5 heures. Pendant l'opération, elles communiquaient avec l'ancienne astronaute Stephanie Wilson aux commandes de la salle de contrôle à Houston, tout en survolant l'Arabie saoudite, entre autres pays, l'ISS faisant le tour de la Terre en 90 minutes. Du 23 au 27 septembre, Lomé a vibré au rythme de la semaine de la diplomatie climatique. Une manifestation qui présentait les actions menées par le Togo en matière de lutte contre le changement climatique et sensibilisait la population, notamment les jeunes, sur les dangers de la pollution environnementale, mais aussi l'utilisation anarchique des ressources naturelles. Kay Lawson était de la partie.
La jeunesse et sa participation à l'action pour le climat, tel est le thème 2019 de la semaine de la diplomatie climatique au Togo. Le pays compte sur sa jeunesse pour insuffler du dynamisme à la lutte contre le changement climatique. C'est dans cette perspective que l'ONG Sciences et Technologies Africaines pour un développement durable, STAD, mise sur les élèves. Ainsi, elle exécute un programme d'éducation environnementale dans les lycées et collèges de la capitale togolaise. Rebecca Lelenda, 15 ans, élève en classe de 3e, est père éducatrice.
Quand nous voyons les gens, ils jettent les choses, pour nous, on doit les sensibiliser à ne pas jeter les choses, on doit les sensibiliser plus savoir que vraiment les déchets ont vraiment de la valeur et puis protéger leur environnement pour les descendants futurs. On nous a montré à fabriquer des choses à base de déchets.
Le combat du Togo contre le changement climatique est implémenté par le biais du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC. Ce programme, décliné en plusieurs projets, permet au pays de renforcer sa résilience. Parmi ces projets, on peut citer celui de la réhabilitation des forêts communautaires. Claude Noutoudien, technicien de mise en œuvre du dit projet.
C'est un projet qui a pour objectif la gestion durable des terres et des forêts. Ce projet se focalise sur l'utilisation des ressources. Nos communautés sont à 100% agriculteurs, donc il faut quand même leur donner les moyens pour pouvoir utiliser durablement les ressources qu'ils ont à leur disposition. Le changement climatique, les causes sont multiples et l'une des causes phares, c'est la destruction du couvert végétal. Quand nous parlons de l'aménagement des forêts, il y a quand même un côté de reboisement.
Les arbres abattus sont utilisés le plus souvent en charbon de bois ou en bois de chauffe. Afin d'assurer une meilleure utilisation de ces ressources et éviter le gaspillage, l'association Action Jeune Togo a développé des fours et foyers améliorés. Gustave Souragnan, directeur exécutif de cette association.
Ce que nous recherchons, c'est l'efficacité dans l'utilisation de la biomasse. Donc, les fours et les foyers améliorés réduisent considérablement l'utilisation de la biomasse. Par exemple, les fours, ça réduit jusqu'à 26% de la consommation en termes de charbon de bois. Donc, c'est ça notre objectif, réduire l'utilisation du bois et du charbon de bois, afin que nous ne mettions pas trop de pression sur la ressource naturelle.
La lutte contre le changement climatique a pour finalité le développement durable et l'amélioration des conditions de vie des populations, soutient Afelou Baréhamna. Il est le coordonnateur du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique.
On ne peut pas améliorer notre résilience au changement climatique dans la pauvreté. Il faut améliorer les conditions de vie des communautés pour qu'elles puissent vraiment contribuer à la lutte contre le changement climatique dans notre pays. Avec le nouveau paradigme que nous avons en termes de développement durable, on ne fait plus de la foresterie pour la foresterie. On ne lutte plus contre les changements climatiques juste pour faire buzz, mais tout ce que nous faisons doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos communautés.
Cette semaine de la diplomatie climatique a été marquée, entre autres, par une simulation des négociations climatiques par les jeunes et des conférences publiques sur la gestion des déchets au Togo et sur l'agroécologie. Kailinson, Lomé, VOA Afrique.
Et oui, et si la jeunesse pouvait.
Le nombre de meurtres et d'atteintes à l'intégrité physique des enfants en Afghanistan a considérablement augmenté entre 2015 et 2018, selon un rapport de l'ONU. Au cours de cette période, plus de 14 000 violations graves à leur encontre ont été enregistrées. Fait alarmant, 12 600 cas de meurtres et d'atteintes à l'intégrité physique d'enfants ont été confirmés, soit une augmentation de 82% par rapport aux 4 années précédentes, indique le rapport.
Entre parenthèses.
Les réfugiés retournés centrafricains installés à Gaoui, à la sortie nord-est de N'Djamena, mènent une vie difficile étant donné le manque d'assistance. Un programme pour leur insertion sociale a été initié par les organisations humanitaires, notamment dans le domaine des microcrédits pour les femmes. Mais le projet n'a pas vraiment réussi, nous dit André Konmajingar.
Installés en 2013 sur le site de Gaoui, un quartier à la périphérie de N'Djamena, les réfugiés et retournés centrafricains font partie de plus de 6 000 réfugiés urbains vivant à N'Djamena. Mais aujourd'hui, cette frange de la population désœuvrée semble être abandonnée par les autorités de N'Djamena et les organisations humanitaires. Les services sociaux de base sont quasi inexistants. Même les huttes de fortune construites à l'aide de bâches et les latrines semi-modernes sont la plupart tombées en lambeaux. Au micro de VOA Afrique, quelques-uns ont du mal à s'exprimer sur leurs conditions de vie.
À peu près déjà là, on a bien traité. Mais maintenant, on a beaucoup souffert. Regardez comment nous sommes.
J'ai vu beaucoup de filles qui sont allées chercher des hommes passe-partout. La moyen de vivre. Il y a des jeunes filles qui sont transférées la grossesse. Ils ne reconnaissent pas l'homme qui a mis la grossesse.
Vous voyez, les bâches là sont déjà pourries. Ici, là, il n'y a pas une école publique, seulement le privé. Et le privé, là, ça demande de l'argent. À présent même, je n'ai pas fait d'inscription à cause de l'argent.
Pour aider ces personnes désœuvrées à se prendre en charge, un projet de résilience pour la réinsertion sociale a été piloté par une ONG partenaire du SR en 2017. Des loyers ont été payés pour 6 mois pour certains avec un petit fonds pour les activités génératrices de revenus. Malheureusement, c'est un échec. Après les 6 mois, les bénéficiaires n'ont plus de moyens et préfèrent revenir sur le site. Fatima Adawai est la présidente des femmes retournées de la Centrafrique.
Elle nous a donné 70 000, 75 000. Elle est allée diviser au radio qu'elle nous a bien servi. 75 000, tu payes l'école, tu achètes les cahiers, les tenues pour les enfants et comment comment tu vas vivre avec ça? Et puis dès que nous sommes ici dans le site, pas d'assistance.
Pour l'administrateur principal chargé de protection du SRO Tchad, si le système d'assistance mis en place pour insérer ces personnes vulnérables ne règle pas le problème, l'OSR sera obligé de les déplacer dans un autre camp à l'intérieur du pays. Kinyandui Boniface Macharia.
Le bout de ce projet était d'insérer les réfugiés et les retournés tchadiens dans la ville de N'Djamena. Et à travers cette activité économique, il devait se prendre en charge. Donc, si cela n'a pas réussi, qu'il y a toujours la possibilité, nous avons au-delà des 14 camps ici au Tchad, on peut les transférer au camp. Et au camp, il y a tous les services disponibles.
André Kodouma Djingar N'Djamena, VO Afrique.
La situation n'est pas plus reluisante en Centrafrique, notamment à Birao, dans le nord-est du pays. Depuis les affrontements du mois de septembre entre les groupes armés dans la ville, plus de 13 000 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, vivent dans de mauvaises conditions sur les sites des déplacés. Le point avec Freeman Sipila à Bangui.
Les affrontements du 1er et du 8 septembre dernier entre les groupes armés rivaux FPRC et MNCJ ont plongé la ville de Birao dans la précarité. En dehors du nombre de morts estimé à une soixantaine, plusieurs maisons et commerces ont été détruits et des quartiers vidés de leurs habitants. Sur les trois sites que compte la ville, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. De retour d'une visite dans la localité, la ministre de l'Action humanitaire Virginie Baïkwa se dit inquiète et propose des actions.
Nous avons trouvé une population encore affectée par les événements de ces derniers temps et vous savez, ils ont peur. Donc il faut réunir les conditions sécuritaires pour parler de retour. On a identifié des besoins et il faut apporter les réponses. Par exemple, ils sont affectés, il faut les aider à dépasser la peur. Il faut aussi améliorer leurs conditions de vie. Ils sont dans des huttes qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc il faudrait améliorer les abris. Il y a beaucoup de choses à faire.
L'insalubrité, les mauvaises conditions de vie sur les sites oblige certains déplacés à braver l'insécurité et à regagner leurs habitations. Certains déplorent le manque de médicaments, d'autres se plaignent d'une prise en charge sanitaire insignifiante. Pour Dr Pierre Somsi, ministre de la Santé publique, des dispositions sont déjà prises.
Une organisation a été mise en place, donc centrée sur l'hôpital bien sûr, mais comportant des unités qui sont installées dans les sites, qui sont des unités pour la prise en charge d'urgence. Les cas de palu par exemple, et tous les cas graves sont repérés à partir de ces unités à l'hôpital. Je crois que le système actuel est adéquat. Donc nous verrons avec l'évolution de la situation dans quelle mesure renforcer ces différentes stations au niveau du centre. Il y a aussi d'ailleurs au niveau de l'un des centres une tente pour des blessés, puisqu'il y a eu des blessés qui ont dû être remis à leur communauté. Et donc il y a une tente pour suivre ces blessés-là sur place.
L'avenir scolaire de nombreux enfants confinés sur les sites des déplacés est aussi menacé. Conscient de cette situation, l'UNICEF propose des alternatives. Christine Mouigana, sa représentante en République centrale.
Nous avons eu déjà la semaine dernière une mission d'évaluation pour voir comment une rentrée scolaire pourrait se faire à Birao. D'habitude, dans ce genre de circonstances, ce qu'on essaie de faire pour parer au plus pressé, c'est d'établir ce qu'on appelle des espaces temporaires d'apprentissage pour les enfants, où on pourrait s'assurer que si les enseignants sont là, si on a un minimum de matériel pédagogique et d'espace pour les enfants, qu'ils puissent commencer un semblant d'année scolaire en attendant qu'ils puissent retourner à l'école. Mais c'est une préoccupation qui nous a été clairement exprimé par les autorités là-bas, par les communautés, et nous allons y travailler avec les partenaires qui sont rassemblés ici.
Malgré l'accalmie observée depuis plusieurs jours à Birao, les habitants craignent encore un regain de violence. Cette inquiétude fait que plus de 13 000 personnes sont toujours massées sur les sites des déplacés, occasionnant ainsi la paralysie des activités dans la ville. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête!